Lisons dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il est écrit ceci. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Je recommence. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors quand il y a une réaction de curiosité que j'ai souvent lorsque je vois les gens tout faire pour devenir les plus riches, ou bien président de la République, tuer même des gens. Bon, j'ai toujours eu du mal à comprendre qu'on fasse tant d'efforts si un jour on doit mourir. Au fait, pour moi, le fait qu'une gloire s'arrête, ça ne vaut pas la peine de se battre pour quelque chose qui va s'arrêter. Alors j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens qui luttent pour être les plus forts, les plus beaux, les plus riches, les grands chefs, sachant que tout cela va s'arrêter un jour. Ça a toujours été un des grands problèmes dans mon cœur, de voir des gens qu'on célèbre comme roi, président, mais de savoir qu'un jour ils vont mourir, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi eux, ils ne sont pas gênés par ça? Pourquoi faire tant d'efforts et pour peu de choses? Parce que dans mon esprit, je me disais, mais c'est peu de choses, parce qu'un jour ils vont mourir. Qu'ils soient même président aujourd'hui, c'est peu de choses, parce qu'un jour ils vont mourir. Je me disais, mais lui, il ne réalise pas ça. Alors, je me suis dit aussi, mais pourquoi moi, je suis insatisfait d'être président? C'est comme si on me disait, mais tiens, est-ce que tu peux être président? Mais moi, ça ne me, je n'ai même pas envie de ça, je n'ai pas envie d'être le plus riche, je n'ai pas envie de tout ça. Je me disais, mais pourquoi moi, je n'ai pas envie de ça? Pourquoi eux, ils ont envie d'être président, le plus riche, le plus fort? Pourquoi ils ont envie de tout ça et que moi, je n'ai pas envie? Pour moi, en quelque sorte, c'était envier, vouloir quelque chose de petit, puisque un jour, tu meurs. Donc, même s'il faut, avec, surtout avec l'âge que nous avons l'impression que certaines choses qu'on a vécues dans la gloire, c'était hier, mais c'est déjà fini. Il y a des exploits qu'on a faits à l'âge de 17 ans, de 18 ans. Les amis de l'époque peuvent nous rappeler ça, mais c'est déjà passé, quoi. Et vu avec l'âge que nous avons, de voir la rapidité hein, que tout ça, avec laquelle tout ça passe, on se dit, mais pourquoi se battre pour quelque chose qui passe si vite? Mais comment les autres, eux, ils ne voient pas ça qu'il est président, mais ça va passer très vite. Notre frère Jacques dit dans l'épître de Jacques que la vie d'un homme est comme de la vapeur. C'est comme de la fumée. Ça sort un instant et ça disparaît. La fumée peut impressionner, hein, elle peut être grande, mais elle ne va pas durer, elle va passer. La vapeur, elle sort. Quand vous ouvrez, vous relevez le couvercle de la marmite, il y a une vapeur qui sort. Mais après 10 secondes, il n'y en a plus déjà. Mais comment eux, ils ne se rendent pas compte? Alors j'ai fini par me dire, mais est-ce que ce n'est pas mon orgueil qui fait que je refuse de me contenter de peu, je veux, parce que dans mon esprit, peut-être que moi, je veux une gloire éternelle qui ne finit. Il n'y a même pas peut-être, moi je me disais, mais la vraie gloire, c'est celle qui est éternelle, qui ne finit pas. C'est ça la vraie gloire. Avoir quelque chose qui finit, ce n'est pas une gloire, parce que ça va finir. Et avec l'expérience que nous avons, avec le vécu que nous avons, nous voyons comment ça passe très vite, très vite. Il y a même des souvenirs de l'âge de 16 ans qui sont encore frais en nous, donc ça passe très vite. Alors, comment ? Alors, j'ai fini par dire, peut-être que parce que moi, j'ai des ambitions plus grandes, je vise des choses éternelles, puissantes et éternelles. Mais je dis, mais parce que un des éléments qui fait que je me sois converti, je me suis adonné à Dieu, c'est le fait que Dieu promet justement ces choses éternelles. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas l'orgueil? J'ai un orgueil plus grand que ce genre-là, parce que quand ils veulent être président, quand ils veulent être riche, il y a l'orgueil derrière. Mais moi, mon problème, c'est mais pourquoi avoir un orgueil si limité? Pourquoi viser quelque chose? Si vraiment on est vrai, un grand orgueilleux, on doit viser quelque chose d'éternel. Moi, je ne comprenais pas comment ils peuvent être orgueilleux et viser quelque chose de petit, donc il va s'arrêter un jour. Viser à être le plus beau, mais ça va s'arrêter un jour. Mais comme, donc, je me disais, mais alors, si moi j'estime que ce qu'eux ils visent est petit, donc mon orgueil il doit être plus grand, puisque moi je vise quelque chose d'éternel, quelque chose de fort. Mais en même temps, je me suis dit, mais comment l'orgueil peut m'amener à me convertir? Il y a un souci. Ça a été toujours un problème pour moi, de comprendre comment je suis arrivé à chercher Dieu, à m'attacher à Dieu à cause de ce problème-là d'éternité. À cause de ce problème d'avoir quelque chose qui ne finit pas. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vis un après-midi très bien ensoleillé avec un climat tempéré très beau, ça m'énerve de voir que ça va finir. Et je me dis toujours, mais tiens, j'ai fait le bon choix d'être avec Dieu parce que Dieu m'a promis des choses qui ne finiront pas. Un jour, on était en train de parler de nos passeports. Alors, quand on retire les passeports, c'est écrit, par exemple, là, on est en 2004, c'est écrit, 2014, c'est écrit, ça finira en 2024. Alors, quand tu retires ça le premier jour, tu as l'impression que 2024, mais c'est loin. Donc, un enfant qui naît, qui atteint 10 ans, donc c'est vraiment loin. Mais un jour, tu seras conduit à aller renouveler ton passeport. Donc, le mois prochain, il y a une sœur qui m'a demandé quelle était la date d'expiration de ma carte d'identité. Alors, comme quand je l'avais retiré, c'était 10 ans, je me disais, oh, j'ai encore du temps. Mais quand j'ai vérifié, j'ai vu que c'était janvier 2015. J'ai dit, ah bon, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et on était en train de discuter sur nos passeports, réaliser comment ça passe vite alors que quand tu retires ça, c'est écrit 10 ans. Alors j'ai dit aux bien-aimés, vous comprenez pourquoi moi j'ai choisi Dieu? Parce que Dieu m'a proposé, nous a proposé la vie éternelle. Donc tu auras des choses qui ne finiront pas. Mais ça restait une question pour moi. Alors, ça veut dire quoi? Moi j'ai un orgueil plus grand que les présidents, les mafieux, les footballeurs, parce que eux, j'estime qu'ils cherchent quelque chose de petit, une gloire qui finira, mais moi je cherche une plus grande gloire qui ne finira jamais. Alors, mais il y avait un autre problème qui venait, mais c'est que comment cet orgueil-là peut amener quelqu'un au salut? L'orgueil, c'est le mal. Ça ne peut pas amener quelqu'un au salut. Alors, j'ai reçu la réponse dernièrement. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la nostalgie. Dieu m'a expliqué qu'il nous a créés éternels. Et j'ai la nostalgie de cette éternité. C'est ça qui dérange tout homme. C'est une nostalgie. Tu penses à ce que... C'est en nous tous. Et il m'a donné ce verset-là d'Ecclésiaste 3 que je connaissais. Mais quand on m'a répondu que c'était la nostalgie, tu es nostalgique des temps anciens. Parce que Dieu nous a créés dans l'éternité. Et c'est écrit donc dans Ecclésiaste au chapitre 3 qu'il a mis cette pensée en nous. Nous avons la nostalgie de ça. Il a mis cette nostalgie en nous. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents d'être dans le fini, dans quelque chose qui finit. Et donc, c'est quelque chose qui me perturbait. Donc, quand j'ai toujours trouvé que les présidents cherchaient peu, les rois cherchaient peu, les grands footballeurs cherchaient peu, en réalité, parce qu'en nous tous, il y a un souvenir de l'éternité qui, comparé aux gloires, aux gloires finies de la terre, fait voir ces gloires-là comme rien du tout. Donc, puisque c'est ce souvenir-là qui m'a amené à m'attacher à Dieu, puisque je me dis que Dieu, lui, résout ce problème-là. Hein, un deuxième problème, c'est la mort. C'est lié. Hein. Donc, d'un côté, le premier problème, il faut que je résume clairement. Le premier problème, c'était comment les gens s'attachent à des gloires qui finiront, qui mourront un jour, à des choses qui finiront. J'avais ce problème-là. Et le deuxième problème, c'est la mort gâche tout. La mort, ce n'est pas normal. Quelque chose de beau ne devrait pas mourir. Une fleur ne doit pas mourir. Donc, il y a en nous une nostalgie qui refuse que les choses meurent. Parce que nous n'avons pas été créés pour mourir. Nous avons été créés pour l'éternité. Nous avons été créés, quand Dieu a créé Adam, a fait la création, il a dit tout cela était bon. Or, ce qui est bon ne meurt jamais. Ça reste tel que c'est. Et ce souvenir-là est dans chaque homme. Donc, c'est écrit au verset 11, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a un reste. Il y a beaucoup d'inconnus par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers. Mais nous avons un souvenir, la nostalgie de l'éternité, qui nous dérange. Et quand quelqu'un se laisse bien déranger par ça, il trouve le salut. Parce qu'il va chercher la solution. Donc, en réalité, quand je voyais tous ces gens avec leur célébrité, leur argent, leur pouvoir, m'imaginer à leur place ne me rassasiait pas. Parce que comment tu peux rassasier un ventre éternel? Un ventre petit, tu peux le rassasier. Mais quand quelqu'un a un ventre éternel, tu vas le rassasier comment? Quelqu'un qui a une soif éternelle, tu vas remplir ça parce que tu peux utiliser tout l'océan. L'océan ne peut pas satisfaire quelqu'un éternellement. Ça va tarir. Aujourd'hui, que tu commences à boire l'eau de l'océan, arrivé à 1 million d'années, tu aurais déjà tout fini. Déjà tout fini. Donc, j'ai compris que quand en moi, je n'arrivais pas à envier les gens qui cherchent le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont tout ça, en réalité, c'est parce qu'en m'imaginant à leur place, je n'étais pas toujours satisfait. Donc Dieu a mis en moi une soif et une faim éternelle que ces choses-là finies n'arrivent pas à satisfaire. J'ai tout compris que ce n'était pas l'orgueil de vouloir une gloire éternelle, mais c'était la nostalgie, c'était le souvenir. On a été créé éternel, c'est le péché. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, il nous a créés en quelque sorte en même temps que lui. Nous avons cette explication dans l'histoire de Melchisédek. Melchisédek, c'est un homme dont on ne connaît ni l'origine. Dans Hébreux 7, on en parle. Et dans Genèse aussi, on ne connaît ni l'origine, ni la fin. C'est un homme devant qui Abraham s'était prosterné pour lui donner la dîme, pour sacrifier. C'était un sacrificateur. Alors, l'apôtre Paul nous explique que le fait que Abraham se soit prosterné devant Melchisédek, Lévi, c'est pas le fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Lévi. Lévi, c'est le père des Lévites, donc le père des sacrificateurs. Alors, Paul nous explique que quand Abraham se prosternait devant Melchisédek, Lévi, qui est son arrière-arrière-petit-fils, se prosternait en même temps. C'est comme si, dans Abraham, il y avait tous ses descendants. Donc, Quand Dieu crée Adam, nous sommes créés en même temps. Mais comme nous sommes dans une vision limitée, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu, lui, sait. Mais sinon, pourquoi expliquer que Dieu laisse que l'humanité aille jusqu'au bout? Normalement, soyons logiques. Dieu ayant vu qu'Adam a péché, qu'est-ce qu'il devait faire? Il arrête tout, il envoie son fils, directement tout s'arrête, il sacrifie, il arrange les choses. Pourquoi il laisse que l'humanité se multiplie? Parce qu'il a créé tout ça en même temps. Vous allez méditer à la maison, parce que c'est pourquoi il faut que tout ça sorte, parce que ça a été déjà créé pour Dieu. Il faut que ça sorte. C'est pourquoi il laisse que l'humanité continue. Parce que ça a été créé déjà, c'est ce qui expliquait donc concernant l'histoire de Melchisédek. Quand Abraham se prosternait devant Melchisédek, Lévi qui est son descendant s'est prosterné aussi. Et Paul utilise ça pour démontrer que Jésus qui est sacrificateur selon Melchisédek est supérieur à Lévi qui s'est prosterné par son grand-père, arrière-grand-père Abraham devant Melchisédek. Donc quand Dieu aussi créait notre arrière-arrière-grand-père Adam, il nous a créés avec lui en même temps. C'était déjà dans sa création comme ça. C'est ainsi que cette éternité-là, nous l'avons en nous. Nous avons les restes de ce qu'Adam vivait. Adam a vécu la perfection. Adam, parce que quand Dieu a créé, tout était bon. Adam a vécu la perfection et Adam a vécu l'éternité. Et nous avons hérité de cette pensée-là de perfection et d'éternité. C'est pourquoi un homme normal ne peut pas être satisfait d'être juste un président, d'être juste le meilleur footballeur, d'être le plus riche, parce que tout ça finit un jour. Et cette soif d'éternité, cette pensée d'éternité, va pousser cet homme à chercher où satisfaire cette fin-là. C'est pourquoi que dit le Seigneur? Il dit dans Jean 7, que celui qui a soif vienne. Comment il compte satisfaire la soif de celui qui a soif? Dans Jean 7, 37 à 39, il dit, de fleuves d'eau vive couleront. Voilà, on va lire ça, Jean 7. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Alors il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ailleurs, il dit, des sources jailliront jusque dans la vie éternelle. Donc c'est que cette soif-là que Dieu a placée en nous n'a de réponse que par Jésus, qui est le pain et l'eau éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit aux Israélites, la manne n'a pas pu satisfaire vos pères parce que ceux qui ont mangé la manne sont morts. Donc ça n'a pas pu régler la question de la vraie faim et de la vraie soif. Pourquoi le Seigneur dit, celui qui le rencontre n'aura plus jamais faim? Pourquoi il le dit? Parce que, donc, alors que nous mangeons et nous mangeons toujours. C'est-à-dire, Jésus est la réponse à la faim que nous avons tous, qu'on a lu dans Ecclésias 3, cette pensée d'éternité et de perfection est une fin que nous avons tous. Et quand quelqu'un entre dans Jésus et qu'il se donne vraiment, il se confie en Jésus, cette fin-là est apaisée. Cette soif est apaisée. Donc, puisqu'il a, il est entré dans cette éternité-là. Alors, voilà la réponse que j'ai reçue concernant mon questionnement, mes questionnements sur le fait que les gens courent après des titres ici-bas, après des postes, après de l'argent, après le... Je ne dis pas qu'un bon jambon ne va pas m'attirer. Je ne dis pas que voilà, une belle voiture ne va pas m'attirer, mais tout simplement, le Seigneur nous dit dans Jean au chapitre 6, nous ne sommes pas loin, Jean 6 au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Travaillez pour la nourriture éternelle. Il dit, mais j'ai multiplié le pain, vous avez mangé, mais vous êtes rassasié. Mais ça ne va pas régler votre problème. Demain, vous aurez faim. D'ailleurs, c'est pourquoi vous venez encore me chercher. Mais travaillez pour la nourriture éternelle. Mais que l'on soit attiré par les choses de la terre, c'est possible. Ça nous arrive à nous tous. Mais est-ce que je dois travailler pour ces choses? Non. Le Seigneur dit, travaillez pour ce qui va vous remplir une fois pour toutes. Travailler pour les choses éternelles. Quand tu veux travailler pour ton mariage, travailler pour les enfants, travailler pour l'argent, travailler, tu vas t'épuiser parce que ces choses-là reviendront toujours. Mais le Seigneur dit travaille pour le royaume de Dieu. Travaille pour la connexion éternelle, pour la relation avec Jésus. C'est cette relation-là qui réellement et le vrai cadeau, la vraie nourriture qui apaise. Maintenant, le reste, Dieu s'en occupe, il va nous donner. Dieu est conscient qu'on a besoin du reste. Il va nous donner. Mais nous, travaillons pour ce qui calme une fois pour toutes, pour ce qui assouvit notre soif, notre faim, une fois pour toutes. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que nous avons en nous une faim et une soif éternelle qui a besoin d'une éternité pour être assouvie. Et seul Jésus a cette éternité-là pour calmer cette faim et cette soif. C'est ça le souvenir que Dieu a mis en chaque homme. La nostalgie de la perfection et de l'éternité. Maintenant, on va se poser la question, mais pourquoi alors les autres? Pourquoi beaucoup d'humains sont à la recherche des choses finies, des choses qui s'arrêteront? Mais parce qu'ils n'ont pas aimé l'éternité avec Dieu. Souvenez-vous, nous avons expliqué que lorsque Dieu crée Adam, il nous crée tous, en quelque sorte, parce qu'on était dans Adam. Mais quel est le choix qu'Adam a fait? Il a fait le choix de quitter l'éternité, puisqu'on l'avait prévenu qu'en mangeant du fruit, il quittera l'éternité, il mourra. Il a fait le choix de l'immédiat. Il a fait le choix du temps présent. Parce que c'est clair que beaucoup ne sont pas dans le salut en Christ. Beaucoup sont toujours dans la quête du présent. Comment expliquer que d'un côté, il y a un monsieur, lui, qui n'est pas satisfait par le présent, une dame qui n'est pas satisfaite par le présent, et d'autres qui courent après le présent jusqu'au point même d'hypothéquer leur éternité, jusqu'au point de rater leur éternité. D'ailleurs, c'est ce que notre Seigneur dit dans Matthieu 16. Il dit, mais comment quelqu'un peut gagner le monde entier et perdre son éternité, perdre son âme? Comment expliquer qu'il y ait de telles personnes sur terre? D'un côté, il y a ces deux catégories, des gens qui sont insatisfaits de la terre, mais et de l'autre côté, il y a d'autres qui courent après la terre, sachant que ça finira quand même. Mais c'est des gens qui sont de la clique d'Adam. Ils ont refusé l'éternité. Ils ont choisi le présent. Satan a dit à Adam, si tu manges, tu deviens comme Dieu. Mais Dieu a dit à Adam, si tu manges, tu meurs. Donc Adam avait les deux informations. il a préféré être comme Dieu et mourir. Voilà. Donc quand quelqu'un a sa drogue, sa cocaïne, quand il prend les 5 minutes d'effet là, c'est comme s'il devenait comme Dieu. Et il accepte la mort qui suit après. Quand quelqu'un s'enivre, le peu de temps là, d'extase là, il devient comme Dieu. Mais il a en même temps accepté, c'est des humains, ils ont un cerveau, ils ont une intelligence. Ils savent que 30 minutes après, qui ne connaît pas le langage de la gueule de bois, ils savent qu'ils vont se réveiller mal. Mais ils ont refusé l'éternité. Ils ont préféré le présent avec la mort qui s'ensuit. C'est un choix. Donc, qu'est-ce qui explique qu'il y a des gens, dans leur insatisfaction, ils cherchent le Seigneur? C'est qu'ils ont soif d'éternité. Ils ont soif de la vraie gloire, de la perfection ancienne. Ils ont cette soif-là. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, dans Jean 7 qu'on vient de lire, que celui qui a, soif qu'il vienne. On ne se laisse pas sauver sans soif. C'est impossible. Il n'y a que les gens qui ont soif, qui ont la nostalgie là, ce souvenir là de perfection et d'éternité, travaillent dans leur vie. Et ils cherchent la solution. Ils ne sont pas bien. Mais quand quelqu'un a perdu cette nostalgie là, ce souvenir, c'est fini pour lui. Il ne peut même pas avoir soif. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais il ne parle pas juste de problèmes de travail ou bien de santé. Il est en train de parler du fardeau le plus grave que ressentent ceux qui ont le travail, ceux qui ont la santé. Mais ils ressentent quand même ce fardeau-là, de savoir que je peux tout perdre. Ça peut les amener à espionner leur femme, mettre des détectives pour surveiller la femme. Alors qu'ils sont tous, ils sont beaux, ils ont l'argent, mais ils mettent quand même des détectives parce qu'ils savent que tout cela peut partir. Il va mettre des alarmes partout dans la maison. Il est riche, il est puissant, mais il y a des alarmes partout. Il y a des vigiles parce qu'il sent bien que tout ça peut partir. Manque d'assurance. Donc ces gens-là, ils ne sont pas pauvres. Donc le vrai fardeau, ce n'est pas le manque d'argent. Le vrai fardeau, ce n'est pas le manque de vêtements, le manque d'enfants ou de mariage. Le vrai fardeau, c'est l'éternité. Parce que ce que toi, tu penses être un fardeau pour toi, il y a des gens qui ont ça, mais qui continuent à être mal, qui continuent à être tristes. C'est que toi, pour les choses que toi, tu penses que ça te satisferait, eux, ils ont ça. Mais ils continuent à être mal, ils continuent à se disputer dans leur foyer, ils continuent à se triper parce qu'il y a un manque, une vraie faim, une vraie soif. C'est celle que Jésus seul peut satisfaire. Je ne dis pas que les gens qui sont dans cette soif-là ne peuvent plus pécher ou bien ils ne peuvent pas être attirés. C'est vrai qu'ils peuvent toujours être attirés par les choses de la terre, mais ils ne travaillent pas pour ces choses. C'est ça la différence. Ils font comme le Seigneur a dit, ne travaillez pas pour les choses qui périssent, les choses de la terre. Ils travaillent pour les choses du ciel, mais c'est des humains qui sont attirés comme tous les humains par les choses de la terre. À la différence des autres, c'est qu'eux ne travaillent pas pour ces choses, alors qu'il y en a qui ont focalisé leur vie sur les choses de la terre. D'une manière ou d'une autre, ils ont perdu la nostalgie, le souvenir de l'éternité. Et donc, ils n'ont pas soif. Et donc, ils sont attirés par ce qui est petit et ils travaillent pour ce qui est petit. Pour se faire féliciter par le patron. Pour être reconnu dans la société comme quelqu'un de marié, pour être reconnu dans la société comme quelqu'un qui a un CDI pour être reconnu dans la société comme quelqu'un qui a fini ses études. Ils travaillent pour satisfaire la terre parce qu'ils ont perdu la soif de l'éternité. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu arrives dans une fête, tu te mets à la dernière place. Les gens qui se mettent à la dernière place, en réalité, comme dans l'éternité, ils sont déjà à la première place, ils ne s'embêtent plus pour la première place ici sur terre. Parce qu'ils y sont déjà. Ils sont déjà à la première place. Et quand je vois des gens richissimes, mais qui n'ont pas Jésus, je me dis, oh là là, comme ils sont malheureux. Parce que tout ça, ils vont perdre. Mais moi, j'ai des richesses éternelles qui ne finiront jamais. J'ai pitié d'eux. Je ne les envie pas, mais j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils n'ont pas l'éternité. Ils n'ont pas ce qui dure à jamais. Ils n'ont pas la protection éternelle. Maintenant, nous allons parler des gens qui ont accepté quand même cette éternité-là, qui ont un moment reçu cette soif. Mais quand on observe leur vie chrétienne, on a l'impression que les choses de la terre les ont rattrapées. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que d'un côté, ils s'étaient rebranchés sur l'éternité. De l'autre côté, les soucis du monde. C'est écrit dans la parabole du semeur dans Matthieu 13. Les soucis du monde les ont étouffés. Tu ne peux pas être un être éternel et te cantonner dans le fini. Le fini, c'est notre monde aujourd'hui. Toi, tu es un être éternel. Tu dois vivre comme un être éternel. Quelle explication je peux donner par rapport à ça, bien-aimé? Est-ce que quand nous prenons un contrat avec EDF et la compagnie qui donne l'eau, est-ce que nous prenons un contrat d'un jour? Non. Pourquoi? Pourtant, quand tu vas signer ce contrat-là, tu t'es déjà lavé, tu as déjà bu de l'eau, tu es propre et tu n'as plus soif. Mais quand tu vas signer le contrat, tu prends un contrat qui va durer des années, des années. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu vas te salir encore. Tu es conscient que tu vas avoir encore envie de l'eau pour boire. C'est pourquoi tu prends un tel contrat. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont entrés dans la marche avec le Seigneur au début, avec cette soif-là d'éternité. Mais après, ils ont oublié. Ils vivent comme si les choses vont s'arrêter sur la terre. C'est pourquoi ils sont rattrapés par le monde. Ils ne vivent pas comme des hommes éternels. C'est pourquoi tant que Dieu ne leur a pas donné ce qui va faire d'eux quelqu'un de valable dans le monde, ils considèrent ça comme un échec. Bien-aimés, d'accord, même Dieu nous a fait des promesses. Ce n'est pas mauvais de les réclamer, ce n'est pas mauvais de les demander. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus qui dit, il faut demander. Mais tout en demandant tout ça, nous devons vivre comme des gens éternels. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un d'éternel, nous sommes dans quelle époque? Nous sommes dans la naissance. Nos 120 ans sur terre ne sont qu'une naissance. Comment moi je vais mettre tous mes efforts sur la naissance? J'oublie tout le... C'est comme si j'ai fait le contrat avec EDF ou bien la compagnie des eaux, Lyonnaise des eaux. Je fais juste un contrat pour un jour, le jour où je me lave. Mais non, mais demain je serai encore sale. Donc je vais faire un contrat à durée indéterminée. Alors beaucoup vivent comme si tout s'arrêtait ici, alors que nous sommes au début. C'est ça, cette négligence-là qui les fait retomber maintenant dans tous les travers possibles et jusque à perdre parfois la foi. Ce sont ces négligences-là qui les amène à ne plus obéir à la parole parce qu'ils ne sont plus dans l'éternité. Ils sont dans le fini, ils sont sur la terre. Oh, notre frère Pierre nous le dit dans 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, comportez-vous comme des gens qui êtes de passage. Donc, ces 120 ans ne sont qu'un passage. Quiconque travaille pour ces 120 ans n'est plus un être éternel. Chacun devait travailler pour la suite. Bien-aimés, quand nous étudions, quand nous envoyons les enfants à l'école, nous ne les envoyons pas à l'école pour l'année où ils sont à l'école. On les envoie à l'école parce qu'on a déjà prévu qu'à 25 ans, ils doivent trouver un boulot. Pour trouver du boulot, on commence déjà à l'école primaire. Donc on prépare leur 25e année déjà par l'école primaire. Alors qu'ils n'ont, ils sont que 2 ans. Est-ce que quand on les envoie à 3 ans à l'école ou à 4 ans à l'école, c'est pour qu'ils trouvent du travail à 4 ans? Pas du tout. C'est pour préparer les 25e années. Alors, comment nous, on peut être des êtres éternels? Nous vivons juste dans les 120 ans. C'est ça qui occasionne beaucoup de chemins tordus qu'on va prendre sur la terre. Beaucoup de choix mauvais qu'on va faire, c'est dû au fait qu'on a oublié qu'on était des êtres éternels. C'est dû à ça. Mais quelqu'un qui a gardé en conscience qu'on est des êtres éternels va rester fidèle à Dieu. Mais quand on cite les gens fidèles, mais c'est tout ce qu'ils nous répètent. Ils nous parlent de l'éternité. C'est ça qui les a gardés dans la fidélité. Ils ont préparé leur éternité. Ils ont vécu pour l'éternité. Et nous allons clôturer en parlant d'un monsieur remarquable dont on nous dit que c'est lui le père de la foi, Abraham. C'est lui qui va nous donner la vraie version de la marche avec le Seigneur. Dans Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Et nous arrivons à Abraham, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc Abraham, on lui promet un lieu sur terre, hein, il va. Ça c'est la première étape de la foi. Donc on a des promesses, il y a aussi des promesses sur terre. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Paul dit, on lui a promis une terre, mais arrivé sur cette terre-là, au lieu de bâtir en pierre, il bâtit en tente, parce qu'il se considérait toujours étranger, même là où on lui a... Là, on lui avait promis de lui donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a donné un enfant. Je dois le considérer comme pas à moi. Là, on nous dit qu'on a promis à Abraham une terre. Arrivé sur cette terre-là, il se comporte comme un étranger. Il y a un problème. Pourtant, c'est Dieu qui avait promis. Mais tu arrives là. Tu te comportes comme si tu étais de passage. Paul va nous donner l'explication. On n'y est pas encore là. Mais beaucoup de choses ont dit, les gens veulent des exemples concrets. L'exemple concret, c'est celui-là. Dieu m'a promis une voiture, finalement, il me l'a donnée. Mais comment je reçois cette voiture? Comme une voiture qui n'est pas à moi. Comme je ne suis qu'un gestionnaire. Mais quand je la reçois comme mon bien personnel, c'est normal que quand on va rayer ça par quelqu'un, que je pique une crise. Qu'est-ce qui motive le péché? C'est le fait de rester terrestre. Le fait de quitter l'état d'étranger. Ce n'est pas à toi. L'enfant qu'on t'a donné, ce n'est pas à toi. Tu te comportes comme si c'était à toi. Que veut dire Samuel? Samuel veut dire Dieu a prêté. Ça veut dire Dieu a exaucé, mais ça veut dire aussi Dieu a donné. Ça veut dire aussi Dieu a prêté. Il y a plusieurs sens avec le même mot. L'enfant, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qu'il a fait? La maman de Samuel lui a dit, ben, je te le redonnerai. Beaucoup se comportent de manière à s'accrocher à ce que Dieu leur a donné. Quand Dieu t'a donné l'intelligence, ce n'est pas à toi. C'est en tant qu'étranger, quand tu utilises ça comme un étranger. Notre vieux Abraham a compris ça. Pourtant, c'était la terre qu'on lui avait promise. Mais il n'a pas bâti. Il a fait des tentes. Paul nous donne l'explication. L'explication est là, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham était dans l'insatisfaction. Arrivé sur la terre promise, il était insatisfait. Parce que ce n'est qu'une terre physique qui passera un jour. Il voulait quelque chose de solide, d'éternel. Voilà les gens qui ont gardé la nostalgie de l'éternité et de la perfection. Arrivé même, ça fait 2 jours que j'ai acheté, du chocolat dans un endroit entre guillemets de qualité, mais à chaque fois que je les vois, je n'ai pas envie de les manger. Et le Saint-Esprit m'a dit parce que ce n'est pas satisfaisant. Mais quand je les achetais, bon, j'étais en jeûne, donc je ne pouvais pas. Mais quand le jeûne est fini, j'ai voulu manger, il n'y a pas le goût. Et le Saint-Esprit m'a dit, parce que tu n'as pas faim, ce n'est pas ça qui va te satisfaire. Donc, on a la chose, mais on a faim de quelque chose de solide, de quelque chose de puissant, de quelque chose qui ne finit jamais. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas manger ça, parce qu'il risque d'y avoir des gens qui vont m'attendre à la fin pour me demander ça. Mais la fin terrestre, ça va venir quand même. Mais le Seigneur a utilisé ça aussi pour me rappeler cette exhortation. C'est ce qu'Abraham ressentait. Arrivé à la terre promise, il s'est senti quand même étranger parce que ça ne le satisfaisait pas d'avoir le plus grand château au monde, parce que c'était des pierres. N'est-ce pas, Jésus avait dit du temple qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Le temple qui a été construit en combien d'années? 46 ans. Jésus dit, mais tout cela sera renversé. Vous n'avez pas entendu parler de Ninive? C'était la plus grande ville de l'époque et ça existe aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous n'avez pas entendu parler de Babylone? C'était la plus grande ville de l'époque. Est-ce que ça existe? Ça n'existe plus. Abraham ne voulait pas de tout ça. Là. Abraham voulait la vraie cité dont Dieu était l'architecte. Continuons, Abraham. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que nous ne voulons pas des promesses? Nous voulons. Sarah a cru. Il a eu son homme, il a eu son Isaac. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir, voilà, nous entrons dans la profondeur, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Donc Dieu a honte d'être appelé le Dieu de certaines personnes. Là, Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. D'ailleurs, il a dit, mon nom, c'est Dieu d'Abraham. Quand Moïse a demandé ton nom, c'est quoi? Il a dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas honte parce que ces gens-là avaient compris que tout était dans l'éternité. Ils avaient la nostalgie de la perfection de l'éternité. Et Dieu, ce sont ces de telles personnes qu'il prendra avec lui. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Le jour de l'enlèvement, beaucoup de gens qui vont dans les églises ne monteront pas avec Dieu parce que Dieu ne prendra que les gens qui ont soif de l'éternité. C'est ça la réalité. Et il est écrit qu'il n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham Parce qu'Abraham l'a honoré en attendant cette cité céleste dont Dieu seul est le constructeur. Abraham ne s'est pas laissé avoir par la terre. Nous savons tous combien Abraham était riche, hein? Mais il ne s'est pas laissé avoir. Il a considéré ces choses comme étant des instruments et non la finalité. Aujourd'hui, combien de gens ne se battent-ils pour une sorte de perfection terrestre dans tout, la santé, l'argent, le ceci, cela, la famille. Bien-aimé, ce sont des choses qui passeront. Dieu nous les a promises. C'est bien de réclamer ça, mais comment les gérer comme des choses qui ne sont pas à nous? Comment les gérer en infusant Dieu dans ces choses-là, en injectant Dieu dans ces choses-là? Il faut que Dieu prenne contrôle de ces choses-là que lui-même nous a données. C'est comme ça que le Seigneur n'aura pas honte d'être appelé notre Dieu. Il faut vivre en homme éternel. Et il est dit qu'Abraham, qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. De la même manière que nous envoyons les enfants à l'école, nous voyons à distance qu'ils vont arriver à l'université, qu'ils vont faire des stages. Aux États-Unis, même les parents mettent déjà, il y a un compte pour l'enfant quand il naît, il y a un compte, puisque comme là-bas l'université coûte cher, il y a déjà un compte bancaire pour l'enfant pour payer son université. Donc quand les parents font ça, ils voient déjà l'enfant en l'école primaire, est au CP, déjà ils voient déjà cet enfant à l'université. Dieu veut qu'on vive comme ça, en touchant ses promesses d'une manière éternelle. C'est-à-dire, nous voulons que la France soit sauvée. Non seulement nous prions pour ça, mais nous devons voir ça. C'est écrit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Comment on peut croire qu'on l'a obtenu? Nous devons saluer ça de loin. Nous devons faire comme Abraham. Croire qu'il va voir des milliers. Parce qu'Abraham est mort sans avoir vécu toutes les promesses, puisqu'on avait dit qu'il aura une descendance qui sera comme des grains de sable. Mais il n'a pas vécu ça. Mais il a salué ça de loin. Il a vu ça à distance. Il a vu la nouvelle Jérusalem à distance. Et donc, il vivait un homme éternel. Imaginez que vous êtes un Américain, vous êtes en train de mettre de l'argent à côté pour que votre enfant fasse des études plus tard, et que vous aviez un ami qui se moque de vous, ah, moi mon argent je vais au bar chaque soir, hein. Dans votre cœur vous allez rigoler, dire, ah, mais on verra dans 25 ans. Quand on... Donc vous voyez déjà votre enfant à l'université avec cet argent-là payé. Vous êtes dans la joie déjà, ce n'est pas pour vous un sacrifice douloureux, c'est un sacrifice joyeux, parce que vous voyez déjà l'université de votre enfant. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous devons être dans cet état-là où nous voyons des millionnaires passer par là, des tennismans qui gagnent des millions en un seul match. Mais si c'était de vraies richesses, Dieu nous les aurait données. Nous devons considérer, comme notre frère Paul dit, nous ne sommes pas riches, mais nous avons tout. Parce que tout ce qui est sur terre est à notre Père et est à nous. Donc, vive dans cette condition-là. Et si Dieu sait que j'en ai besoin, il me donnera. S'il ne me donne pas comme Roger Federer, c'est que je n'en ai pas besoin d'avoir comme lui. Bien-aimé, si Dieu ne te donne pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Mais toi, tu crois en avoir besoin à cause des soucis du monde. Nous donnons l'explication. C'est les soucis du monde qui te font croire que toi, tu en as besoin. Mais ton Père qui t'a créé, qui sait comment tu fonctionnes, sait que tu n'en as pas besoin. La solution, c'est de chercher sa vision à lui. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Proverbes 9, 17 que le peuple sans vision est un peuple sans frein? Parce qu'il marche dans une logique qui n'est pas la logique de la création. Dieu nous a créés éternels et parfaits en Adam et nous avons gardé cette nostalgie-là. Normalement, nous devons fonctionner avec cette nostalgie-là, cette vision-là. Vous savez, quand les gens me disent, mais pasteur, bon, ton passage dans tel endroit, a fait qu'il y a des gens qui se sont convertis, il y a des gens qui ont été touchés. Bien-aimés, je n'ai jamais de satisfaction abondante parce que ma vision, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas parce que 10 se sont sauvés que je vais lever, hausser les épaules. J'ai dit, je suis content, mais ça s'arrête là. Le regard fixé sur les promesses divines, Dieu veut sauver tous les humains. Et on continue la marche. On vit dans un esprit éternel. On veut l'éternité, on veut la perfection de Dieu. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça sa perfection. Sa perfection, ce n'est pas que toi, ton ministère, il y ait eu 1 million de sauvés. Sa perfection, c'est que tous les humains soient sauvés. Donc, tu dois vivre dans cette attente-là, dans cette soif-là, toujours. C'est important, bien-aimé, d'entrer dans une vision éternelle des choses, voir les choses dans l'éternité comme Abraham. Il est mort sans voir, mais il est mort dans la paix de posséder ce qu'on lui a promis, mais sans voir ça physiquement. Mais il a salué ça dans l'éternité. Mais il était satisfait. Vous savez, voilà, quelqu'un qui est satisfait. Voilà, il était satisfait. Il savait que Dieu avait exaucé ses promesses. Mais comme c'était un être éternel, il le voyait dans l'éternité. Bien-aimé, quand vous êtes fils d'un roi et qu'on vous promette une Porsche, quand vous aurez votre bac et vous n'avez que 12 ans ou 13 ans, est-ce que vous n'allez pas être dans la joie? Vous allez être dans la joie parce que vous savez que votre père a les moyens d'acheter ça. Donc vous savez qu'à 18 ans, quand vous avez le bac, vous avez votre Porsche. Déjà, vous êtes dans la joie. Déjà, vous faites vos plans. Parce que vous avez foi. Vous savez que votre père, c'est le roi. Votre père est riche. Mais c'est notre état. C'est l'état dans lequel nous devons être. Puisque Dieu a promis tant de choses. Nous devons être dans la joie déjà. De voir ces choses à distance, c'est ça la foi. Dieu donnera. Mais je suis déjà dans la joie. Il est tout puissant. Il donnera. Je vis dans l'avenir et dans le présent en même temps. C'est ça la vie d'un vrai chrétien. Il vit et dans le présent et dans l'avenir en même temps comme son Dieu. Vit et dans le présent et dans l'avenir en même temps. Comme Abraham vivait et dans le présent et l'avenir en même temps. Quand on monte à Jésus le temple, lui leur dit quoi? Il leur dit l'avenir. Il n'y aura plus rien. Voilà le vrai chrétien. Il vit dans les deux en même temps. On lui montre, mais le temple c'est extraordinaire. Mais lui il savait que dans quelques temps ça va disparaître. Donc lui qui sait que ça va disparaître, est-ce qu'il va s'accrocher à ça? Non. Mais nous sommes comme Jésus. Nous connaissons déjà beaucoup de choses à l'avance. Mais pourquoi nous accrochons à ce qui va passer? Parce qu'on a perdu la nostalgie de l'éternité et de la perfection d'avant. On s'est fait avoir par les soucis du monde, comme Matthieu 13 le dit. On s'est fait avoir par les limitations du monde. Le monde est limité, Dieu est illimité. Mais donc, si tu as perdu la nostalgie de l'infinité de Dieu, c'est normal que tu es triste quand tu n'as pas vu encore. Mais celui qui sait, qui se souvient de l'infinité de Dieu, il sait que Dieu va faire. Il sait que Dieu a des ressources infinies. Il est tranquille, bien-aimé. C'est pourquoi notre frère Paul dit dans 1 Timothée 6, « Pour autant qu'on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. » Ça nous permet de vivre. Pour le reste, Dieu s'en occupera. Rebranchons-nous, bien-aimés, sur l'éternité. Si on avait perdu cette soif, si on avait perdu ce souvenir-là, cette nostalgie, en quelque sorte, nous étions en train de perdre aussi notre âme. Rebranchons-nous sur l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous replonger dans la logique d'Abraham, dans la soif, dans la nostalgie de ce que nous étions autrefois en Adam, des êtres éternels parfaits. Seigneur, nous refusons de choisir la mort par les choses de la terre. Nous préférons garder cette soif-là d'éternité, garder cette nostalgie de perfection. C'est ça qui va être le moteur de notre fonctionnement sur terre. C'est ça qui va maintenir notre foi au bon niveau, parce que nous allons être des gens qui vivons le présent et l'avenir en même temps. C'est ça qui va nous enlever la tristesse. C'est ça qui va nous enlever les doutes, parce que nous voyons l'avenir en même temps, cet avenir qui est inscrit dans ta parole. Cet avenir qu'Abraham a vécu, qui a permis qu'il meure dans la satisfaction et non dans la désolation. Ô Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à t'atteindre. À toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur.